I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Camille et Justine, bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Fiona Schmidt et on boit un jus fraise, framboise, fleur de sureau.
Mmh.
Oh, c'est
quel ensemble.
Bah non, mais c'est vrai, ça donne envie. Dit comme ça, ça donne envie. Je suis sûre que là, les gens qui écoutent se disent miam miam. Nous avons fait un acrostiche, comme à notre habitude. F comme formée à l'Institut français de presse à Paris, elle est journaliste depuis presque 20 ans.
I comme Instagram, son compte regorge de posts engagés, intelligents et drôles. Allez donc vous abonner.
O comme offensive, qu'elle parle de féminisme, de maternité, de consumérisme. Elle affiche haut et fort ses convictions sans s'excuser et c'est comme ça qu'on l'aime.
N comme newsletter, la sienne l'a fait connaître, plus de 24 000 personnes suivaient son contenu et appréciaient sa plume acérée.
A comme autrice, elle a déjà 4 livres à son actif, dont Lâchez-nous l'utérus et Comment ne pas devenir une marâtre. A votre avis, c'est le genre de titre qu'on aime ou pas? Et un nouveau livre qui va bientôt sortir.
Et pareil, oui.
Du coup, là, on sera plus à 4, on sera à 5.
On sera à 5, absolument.
Ah, bah faisons la promo dès le début, Fiona. Bah,
allons-y. Oh,
comme ça, c'est fait.
On se débarrasse de tout super.
Après, on parle des vrais sujets.
Le titre, c'est
C'est vieille peau.
Tout simplement,
en toute simplicité. Moi, j'ai commencé à écrire mon premier livre. C'est un livre de cuisine qui s'appelait Les recettes d'une connasse. Mmh. Ensuite, j'ai écrit Lâchez-nous l'utérus, Comment ne pas devenir une marâtre. Donc voilà, donc là, c'est vieille peau.
Okay. Sur la peur de vieillir.
Sur la peur de vieillir, exactement.
C'est un essai, on est d'accord.
C'est un récit, c'est-à-dire que j'y ai mis beaucoup, beaucoup de moi. Okay. Encore plus que dans les précédents, et notamment dans Lâchez-nous l'utérus, où j'ai beaucoup déjà parlé de moi et de mon choix de ne pas être mère. Et là, c'est vraiment un striptease mental. C'est-à-dire que là, vous allez voir, je me fous un petit peu à poil mentalement, oui.
Et il sort bientôt ?
Et il sort le 17 mai.
Et tu as peur ?
J'ai très peur. J'ai très peur parce que la peur, j'ai inventé un peu la peur. Moi, je suis une personne très angoissée. Je suis une personne extrêmement angoissée. Et pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi tu vas parler de ça ? Ça n'a aucun sens. En fait, ça fait très longtemps que je suis obsédée par la peur de vieillir. Je sais qu'on a ça en commun, Camille.
Oui.
C'est la peur de vieillir. Mon obsession, c'est l'âge et le temps qui passe. Quelque chose qui me hante depuis que j'ai à peu près 20 ans. Et puis, j'ai longtemps pensé que ça faisait partie de ma vaste collection de névroses personnelles, avant de me rendre compte que c'était peut-être le symptôme de quelque chose de plus profond, peut-être, parce que je me rends compte que je partage ça avec beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes femmes. Alors, pour situer le contexte, moi, j'ai 41 ans et je me rends compte que j'ai peur de vieillir depuis que j'ai 20 ans. Mmh. 20 ans, ça a été vraiment une étape qui m'a... Je ne dirais pas traumatisée parce qu'il faut exagérer, mais ça m'a vraiment marquée et pas dans le bon sens. C'est-à-dire que 20 ans, j'avais vraiment l'impression de basculer du côté des adultes et qu'il y avait un truc qui était irrémédiable. Quoi.
C'est quoi ? J'allais dire, t'as
ça
mis
peut
le
se traduire
doigt
sur... Par quoi ? C'est ça ?
Non.
Oh, pardon.
Mais du coup...
J'ai cru que je te compléterais totalement.
Non, je voulais dire, est-ce que t'as fini par comprendre ou de quoi t'avais peur ? C'est quoi qui fait peur, au final ?
C'était ça.
Ça se traduit par quoi ?
Ah bah, excuse-moi, j'avais pas compris. Donc, comme quoi, on était connectés, en fait.
C'est justement la question que je pose, l'une des questions que je pose dans le livre et à laquelle je réponds.
Donc, en fait, payez le livre, en fait, si voilà, vous voulez la réponse.
Il y a beaucoup de questionnements. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu conscience du temps qui passait, c'est une espèce d'injonction sociale en rapport avec l'âge. C'est-à-dire, à 20 ans, tu es censé faire ça. Et là, aujourd'hui, j'en ai 41 d'ailleurs, on ne dit pas 41 ans. On fait ce qu'on veut.
Voilà. On dit bien et les 1 an de quelqu'un.
Les 1 an, c'est vrai, absolument. Et en fait, 20 ans, c'est un peu comme toutes les dizaines. Ça s'accompagne de beaucoup d'injonctions. oui. sociale en termes de respect des normes, de tas de choses comme ça. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque... Alors, à 10 ans, ça allait. Hein, je vivais ça assez bien. Mais à 20 ans, c'était la première fois où je me suis dit, bon, est-ce que je suis bien dans mon âge ? Est-ce que je correspond socialement à mon âge, en fait, c'est ça. Et ça continue à 30 ans et encore à 40.
Et tu trouves que tu corresponds pas à ton âge, là ?
Non, je corresponds pas à mon âge parce que, enfin, je corresponds pas à l'image qu'on se fait, l'image d'Épinal de la Quadra, dans la mesure où j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant, donc je ne suis pas mère. Donc déjà, tout le monde part du principe que je suis mère parce que par ailleurs, je coche toutes les cases du bingo procréatif. Hein. Je suis cisgenre, hétérosexuel, en couple, avec un homme conjugalement compétent depuis très longtemps. Non, mais c'est vrai, qui s'est en plus abondamment reproduit, puisque je suis belle-mère 3 fois. Et par ailleurs, j'ai pas de travail qui correspond non plus à l'image d'Épinal qu'on se fait de la Quadra, c'est-à-dire que j'ai pas de travail avec un CDI et des tickets restaurants. Enfin, j'ai un lifestyle qui ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'une quadragénaire, même si au-delà de ça je suis privilégiée, bien sûr, dans une certaine mesure je suis quand même marginale.
J'ai quand même espoir que ce soit en train d'évoluer, parce que je me posais la question quand tu te décrivais comme ça sur le fait d'être marginale, je me disais dans les yeux de qui, dans les yeux, est-ce que c'est quand même des générations d'au-dessus ou est-ce que vous pensez que on continue quand même toujours à reproduire ces modèles, parce que bah, moi aussi, d'une certaine manière, j'ai 33 ans, je vis dans 25 mètres carrés, je suis solo.
Ben voilà.
Et c'est vrai que je me sens quand même aussi un peu marginale, alors voilà. Que je sais et que j'ai envie surtout d'arriver dans un monde où c'est pas marginal, où ça existe, point, c'est comme ça, il y a plein de schémas différents.
On est d'accord qu'il y a un poids patriarcal dans cette histoire. Enfin,
non.
Hein ?
Non, mais. Parce que.
Écoute,
tu ramènes toi ça.
Non, mais tu ramènes toi ça.
Non, parce que j'ai vraiment envie de
le laisser. Il faut le laisser, le pauvre.
Un mec qui vit dans son 30 mètres carrés. Enfin, si, ça peut être un Tanguy, c'est ça ? Non,
Tanguy, c'est s'il vit chez ses parents. Mais c'est vrai, t'as raison, un mec qui vit dans une garçonnière.
Oui, c'est une garçonnière.
Tu sais, qui a tout lâché, qui fait le tour du monde et qui veut pas forcément d'enfants. Un truc comme ça, bah, il n'est pas stylé, si ?
Non, je crois pas.
Non. Alors ça, c'est parce que effectivement le fait de vouloir se mettre au centre de sa vie, c'est-à-dire de s'accorder la première place, comme moi je l'ai fait. Enfin, c'est-à-dire j'ai fait le choix de pas avoir d'enfant parce que j'ai fait le choix de vivre pour moi-même, ouais. Pour moi toute seule. Et ça, c'est vrai que c'est quand même encore très problématique, quoi, très questionné en tout cas dans la société dans laquelle on est. Donc alors que effectivement,
chez les hommes.
Bah pas chez les hommes.
Ouais. Ouais.
Enfin,
bah oui, puisque... et surtout, je pense que le réflexe de se mettre au centre,
ouais, se donner la priorité,
est un peu un réflexe chez l'homme. C'est pas un reproche, c'est même pas.
Non,
je dis même pas.
C'est exactement ça.
Je pense que c'est un fait et que c'est un.
C'est exactement ça.
De toute façon, comme
et qu'on n'attend pas de lui qu'il procrée. Bah de toute façon, autant qu'on l'attend des femmes, quoi.
Bah surtout un homme.
Non,
puis l'homme, tu sais, il y a l'idée qu'il peut faire des enfants jusqu'à 80 piges, en fait. Donc
oui,
à la rigueur,
oui, il y a ça, évidemment. Évidemment.
Dépenser sa semence, ça tout va, vraiment dès qu'il en a envie, tu vois.
Ouais, et puis la parentalité, c'est quand même encore très largement un sujet de femme, quoi. Enfin, ouais, qui est considéré comme un sujet de femme. Donc lui, évidemment, enfin, c'est important pour un homme socialement. Je dis pas qu'il y a pas de pression et d'injonction à la paternité, mais ça n'a aucune commune mesure avec les injonctions que nous on subit en tant que femmes.
On est même carrément à l'inverse. On est encore un peu pareil. J'espère que ça bouge et ça tend à changer, mais on est un peu dans l'homme. Faut le forcer à avoir un enfant presque.
Oui,
c'est-à-dire qu'il faut le caser. Enfin, tu vois, faut le forcer à lui mettre les menottes et à l'enfermer chez soi pour qu'il devienne un père, pour qu'il devienne un mari. C'est genre négatif, alors que la femme, c'est censé être notre objectif vu les comptes avec lesquels on grandit, c'est d'attraper un prince, quoi. C'est vraiment genre de lui passer la corde au cou.
C'est exactement ce que j'allais dire, ouais. C'est ça. C'est, enfin, on apprend quand même aux femmes à désirer quelque chose qu'on apprend aux hommes à détester. Enfin, ouais. Voilà, donc,
c'est vrai.
On leur apprend à s'en méfier quand même. Ouais. C'est horrible.
Donc à partir de là, on peut pas. Enfin, on peut pas.
Tu vois, on peut pas être gagnant.
Non.
C'est pas, non.
Et on peut pas être pote, quoi. Enfin,
or, je trouve que du coup, arriver dans un monde où de plus en plus de femmes questionnent le fait de vouloir des enfants. Ou pas, bah ça va aussi forcer, je pense, les hommes qui en veulent à verbaliser qu'ils en veulent. Parce que du coup, dans les couples, bah, cette discussion existe, tu vois, c'est normal, elle a lieu d'être. Et du coup, bah, d'un coup, s'il y en a de plus en plus de femmes qui disaient « moi, je sais pas si j'en veux ou j'en veux peut-être pas », et du coup, l'homme va en face, s'il en veut, il va devoir le dire, au lieu de juste donner l'impression qu'il en a fait pour sa compagne. Non, il y a un vrai choix dans les deux sens, quoi. Je pense.
Oui.
Je me dis ça. Et donc toi, tu as tout de suite, tu as assez tôt parlé du fait de ne pas vouloir d'enfant, mm-hmm. ou c'est les gens qui t'en ont parlé.
Attends, et ça a un terme, ça. Tu peux nous le redire.
En fait, on m'a beaucoup parlé parce que j'en parle. J'ai sorti La chaîne utérus en 2019, et en fait, on m'a énormément. Le livre comporte 8 chapitres, et on me parle toujours du même, c'est-à-dire du choix de ne pas avoir d'enfant.
Donc, c'est ce qui, obsédant,
ouais,
quoi.
Non, mais ce qui prouve que c'est quand même encore exotique. Bah, et le fait qu'une femme en parle, à l'époque j'avais 37 ans, donc c'était vraiment encore plus exotique. Et on me parlait toujours de mon non-désir d'enfant. Et en fait, au début, ça ne me choquait pas. Donc même en 2019, ça ne me choquait pas. Enfin, la pièce a mis un petit peu de temps à tomber. Et en fait, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que ça c'était pas juste et que c'était très important parce que le poids des mots est politique, les mots ont un sens et que c'était très important pour moi de parler de, plutôt que de non-désir d'enfant, de désir de ne pas avoir d'enfant, puisque le non-désir d'enfant, c'est pas mon projet de vie n'est pas un non-projet de vie, mais un projet de vie à part entière, c'est juste un projet de vie qui est différent.
C'est un autre désir.
Des autres, et c'est exactement ça, et c'est un désir qui est différent de celui de la plupart des gens.
Ouais. Et donc ne pas avoir d'enfant,
et c'est pas genre ne pas avoir d'enfant, perdu quelque chose quoi.
Non, c'est ça, c'est pas un trou, c'est en fait j'ai pas un trou à la place de mon désir, c'est un désir qui est différent.
C'est ça.
Voilà.
Et ça s'appelle être nulle part. C'était ça le mot que tu voulais juste.
Excuse-moi.
Ah oui, être nulle part, ça veut pas dire ne pas vouloir d'enfant, ça veut dire ne pas encore en avoir.
C'est en fait c'est
nulle part, t'es nulle part.
On est toutes les trois nulle part.
C'est
nulle part. Ne jamais avoir accouché.
Ouais.
Voilà, okay. En fait, c'est ça. D'accord. C'est la définition médicale du terme.
C'est fou. Voilà. Je trouve ça fou.
Ouais, c'est dingue.
Et que ce soit ce mot-là.
En fait, c'est parce qu'il y a le mot nul dedans, mais nul, ça veut dire
oui,
zéro.
Il y a nul et nulle part.
Nous, on le voit. Oui. Forcément, à notre oreille, nul et pas. Nulle part.
C'est vrai.
On n'existe pas. Mais...
Non, mais puis surtout, c'est employé quand genre, tu rentres chez le médecin, il te dit vous êtes nul et part.
Ça peut arriver, c'est pas.
Jamais entendu.
C'est pas le terme le plus courant, effectivement. Mais tu pourrais très bien le dire. Ouais. Pas très bien dire, je suis nulle part, mais si ça peut arriver chez la gynéco,
tu présentes
comme ça.
Ouais. Non, mais ce qui est intéressant à ce propos, c'est que alors qu'en anglo-saxon, en anglais, donc, hein, plutôt qu'en anglo-saxon, voilà, en anglais, en fait, il y a des termes qui existent. On dit no kids d'abord, on dit child-free pour les femmes qui ne veulent
pas. C'est beau d'ailleurs.
Oui, exactement. Et pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs, qui ne veulent pas.
Liberté, quoi.
Qui ne veulent pas d'enfants ou childless quand malheureusement,
ils n'y arrivent pas.
Voilà, exactement. Quand le fait de ne pas avoir d'enfants n'est pas un choix. Exactement. Donc il y a quand même trois termes dans le langage courant qui désigne les gens qui n'ont pas d'enfants. En France, ça n'existe pas. Par exemple, un nullipare, un homme qui ne veut pas d'enfants, ça n'existe pas. Donc, ça n'est pas verbalisé, il n'y a pas de terme qui existe pour ça. Et nullipare, encore une fois, c'est un terme qui est médical et qui n'est pas connu de tout le monde, de là. Et donc, ça veut dire aussi quelque chose de notre société, donc qui ne considère pas, qui ne donne même pas de nom à quelque chose, donc qu'elle ne considère même pas...
Mais child-free, je trouve ça... Child-free, c'est beau, mais... libre d'enfant,
kids, tu vois, enfin,
oui, c'est vrai, sans enfant, on dirait sans enfant, enfin, genre,
oui, mais tu ne dis pas un sans enfant, alors qu'un no kid,
c'est une vraie expression,
oui, c'est vraiment,
mais donc, tout à l'heure, je te demandais, est-ce que c'est toi qui as eu ce besoin donc d'en parler parce que tu trouvais ça important ou est-ce que c'est les gens qui t'ont ramené à ça malgré toi en fait ?
Alors en fait, moi j'ai été socialisée exactement comme toutes les petites filles avec un poupon dont on m'a dit que c'était mon enfant et qu'il fallait en prendre soin. Enfin, je veux dire, comme à peu près toutes les petites filles.
Mais c'est bizarre, ça.
Non, mais,
je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. C'est bizarre de donner un bébé à un bébé, vous ne trouvez pas ?
Oui. Non, mais alors déjà, et en fait, de lui dire que c'est son bébé.
Ouais, c'est trop bizarre. Enfin,
c'est-à-dire qu'on ne te dit pas c'est un jouet, on te dit c'est ton bébé.
Oui, il faut t'en occuper.
Et puis, il faut t'en occuper et il faut en prendre soin. Mais au sens où en prendre soin comme une mère prend soin de son enfant. Et en prendre soin parce qu'il ne faut pas que tu abîmes tes jouets parce que tu es une petite fille. Et donc, il faut que tu prennes soin des choses. Alors que s'il a un petit garçon, ça casse des jouets, la bagarre. Normal, tu vois. Et en fait, moi, c'est un truc qui m'a toujours questionnée, qui m'a questionnée très jeune, et pas parce que j'étais particulièrement intelligente, mais parce que ça me paraissait absurde, et ça me paraissait absurde que mes copines jouent à ça sans se poser de questions, en fait.
Tu te souviens des petites, tu sais que tu rejetais ça déjà.
Ah, mais oui, et c'est ce que je raconte dans La chaîne ou l'utérus. Okay. Ouais. Je raconte que j'admirais beaucoup une petite fille qui était venue chez moi jouer. Alors, je sais pas, on devait être en CP, peut-être CE1. Et elle était venue à la maison. Et puis, j'avais pas de poupée parce que ça m'intéressait pas beaucoup les poupées, à part pour leur dessiner du maquillage sur la tronche au Véleda et ensuite je leur coupais la tête et je les enterrais dans le jardin. J'étais un peu Mercredi Adams. Non, mais c'est vrai.
Un peu sociopathe. Oui,
un peu sociopathe. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai tatoué. Oh, c'est pour ça. Bon, je l'ai tatoué. Je l'ai... Mais je jouais pas à. Je faisais pas la maman. Je faisais pas la maman. Mmh. Non. J'avais une passion à une époque. Je les enterrais dans le jardin pour voir si elles allaient ressusciter et comment ça allait évoluer en fait.
Si un arbre de Barbie allait pousser.
Mais oui, non, mais ça me fascinait. Je me demandais comment ça. Mais
avec une des époque, Barbie inclusives.
Non, mais voilà. Mais j'étais très très fascinée par la putréfaction, les trucs comme ça. J'aimais bien les. Non, ouais, j'aimais bien les oiseaux.
C'est le début de Dahmer. Après, je dis ça, c'est pas.
On s'éloigne un petit peu du. Bref.
Et donc, tu avais cette copine. Et que donc, tu j'avais cette copine.
Voilà, j'avais cette copine. Et donc, je me suis dit, bon, elle n'a pas, elle a pas vraiment une tête à aimer les oiseaux morts et à disséquer les grenouilles. Donc, on va. Bon, et puis, elle était venue. Et puis, alors, elle voulait absolument qu'on joue à la maman avec mes poupées. Et puis, bah, moi, j'en avais pas. Et donc, elle avait l'air hyper étonnée et elle m'avait dit on n'a qu'à changer les couches de tes nounours parce que j'avais beaucoup de nounours. Mmh. Très spontanément, je lui avais dit mais tu veux pas qu'on joue à l'élastique plutôt ?
Ça va.
Bah oui, ça va. Et en fait, elle m'avait dit mais t'aimes pas jouer à la maman ? Mais genre, comme elle était choquée, quoi. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs à ce sujet qui m'a fait me questionner sur cette socialisation, disons, des petites filles. Et donc, du coup, et de la marginalisation aussi que ça entraîne de ne pas vouloir avoir un amoureux ou de pas, ou de pas se projeter là-dedans, quoi, ni dans le couple, parce qu'on a, là aussi, on est éduqué à avoir un amoureux très vite, très, très jeune. Enfin, c'est les adultes aussi qui...
Ah, mais ils projettent ça direct, dès la maternelle. C'est qui ton amoureux ?
Oui, exactement. Faut arrêter avec ça. Mais exactement.
Moi, je jouais grave aux Barbie et Ken.
Bien sûr.
Enfin,
voilà.
Enfin, bon, je les faisais se faire des bisous.
Bah oui, mais en fait, c'est normal, puisqu'on grandissait dans ce monde-là. Où les filles, les garçons, ça doit être
amoureux. C'était des amoureux, c'était jamais des amis. C'était des amoureux.
Déjà, jamais des amis.
C'est hétéronormé à fond.
C'est vrai qu'on projette un truc un peu sexuel sur des enfants, quoi.
Alors que tu sais même pas comment fonctionne ton corps.
Mais on doit déjà être amoureux.
C'est ça aussi qui est. Que moi j'ai toujours trouvé particulièrement c'est dont je parle d'ailleurs dans le livre, c'est que les petites filles soient responsabilisées et éduquées à jouer aux adultes très tôt. C'est-à-dire que on leur, tu vois, jouer à la maman par exemple, c'est jouer à être une adulte.
Puis jouer à la maman, jouer au ménage, jouer au ménage, à la cuisine, etc. C'est vraiment des tâches, quoi. Enfin, des vraies tâches.
Et des rôles sociaux
quoi, genre, qui s'occupent des autres,
non
quoi,
seulement
la maîtresse,
mais aussi
mais
des rôles d'adultes. C'est des rôles sociaux d'adultes, alors que les petits garçons ne sont pas
on les sociabilise pas, on les éduque pas à la même chose.
Exactement.
Les garçons, c'est
à être des cow-boys,
c'est faire
quoi,
la bagarre, c'est la bagarre, c'est se dépenser parce qu'ils
ont
beaucoup
d'énergie.
Oui, à la rigueur les policiers, mais c'est vraiment
c'est
très bagarreur, c'est très
oui c'est ça.
Mais c'est pas un rôle,
c'est très genré, quoi. Mais c'est pas un rôle s'occuper des autres.
Non, c'est ça.
Surtout pas policier.
Ça vient pas de nulle part, de toute façon.
Ouais. Mais en tout cas, pour revenir vite fait dessus, ça me fait vraiment gaulerie qu'on adopte, qu'on aborde. Oula, adopte. Qu'est-ce que je veux adopter tout à l'heure ? Ça fait deux fois que je dis. qu'on aborde le sujet des poupons.
Pose-toi des questions.
Ouais, c'est clair. Des poupons pour les enfants, parce que ça fait vraiment juste là, 2-3 jours. Il y a 2-3 jours, je me suis vraiment dit, mais attends. Je m'étais jamais fait la réflexion parce que moi j'ai vraiment grandi avec les petits bébés là, tu sais, les poupées Corolle là qui sentent la vanille.
Mais
là,
ouais.
J'adorais. Enfin, je trouvais que ça sentait trop bon. Je sais pas à quel point je m'en occupais et que je voulais être la maman, mais en tout cas ça me choquait pas, petite quoi. Et même jusqu'ici pour les autres enfants ça me choquait pas trop. Et là je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Un bébé avec un bébé quoi, c'est
mais parce que soit parfois ça peut être lié, je sais pas si l'enfant va avoir un petit frère ou une petite sœur pour lui donner un peu la notion, ça peut être aussi pour imiter parce que les enfants ils imitent beaucoup. Quand les enfants ils veulent un jouet balai, c'est parce qu'ils ont vu leurs parents leur mère passer le balai, enfin tu vois, il y a un truc d'imitation et donc d'avoir envie de s'occuper du bébé comme nous on s'occupe de deux, tu vois. Il y a
c'est
je
vrai.
Pense que c'est pas que négatif
non,
ou
non,
bizarre
non, non.
Mais
bah, ça ne serait pas un problème si les petits garçons étaient aussi
et donc il y en a de plus en plus. Et enfin moi je vois autour de moi quand même les gens qui sont dans mon entourage qui ont des enfants essayent pour la plupart de plus en plus
garçons.
De dégenrer un petit peu l'éducation assez tôt, mais malheureusement ils n'ont pas la main sur tout. Et il y en a qui me disent mais ils préfèrent quand même les camions de pompiers. Et tu vois il y a encore l'idée reçue que on n'est pas pareil les petits garçons et les petites filles,
pas constitués pareil, on va pas vers les mêmes trucs.
Puis tout dépend pas des parents non plus.
Non, c'est pour ça. Il y a plein d'entourages autour.
Exactement.
Donc, tu peux essayer. Mais ceci dit, ça bouge quand même un petit peu. Parce qu'effectivement, de plus en plus de petits garçons autour de moi ont le truc pour faire le ménage et une poupée, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Bon, c'est déjà, entre guillemets, c'est déjà ça. Ça change pas le monde, mais on avance un peu, quoi. Mm-hmm. Et donc, pour revenir à ton parcours, tu n'as donc pas tu n'as pas d'enfant.
Non.
En revanche, tu es belle-mère. Et
oui,
ma question, à quel moment
comment ça t'est arrivé?
Non, c'est figure-toi que c'est pas ça que je vais demander.
Dessus.
Je me demande ça parce que
Karma a dû rigoler.
Moi, je me suis souvent dit, alors c'est vraiment pour avoir ton expérience et ton raisonnement sans dire des absolues vérités, mais moi par exemple, je me demande si je veux des enfants, je sais pas si j'en veux, mais par exemple, je sais que si j'en ai pas, je serais très contente d'être au moins belle-mère pour avoir des enfants dans mon entourage, et j'ai l'impression que ça pourrait peut-être compenser mon besoin, enfin ouais, voilà, me satisfaire. Est-ce que toi, il y a eu cette partie-là ou non, ça, alors, au contraire ou...
Moi, très sincèrement, alors on choisit pas d'abord de qui on tombe amoureux. Hein. Il se trouve que la personne dont je suis tombée amoureuse avait 3 enfants. L'homme dont je suis amoureuse depuis 12 ans maintenant est beaucoup plus vieux que moi. Donc il avait 3 enfants, il a 15 ans de plus que moi. Il avait 3 enfants, dont 3 filles. L'une était adulte, l'autre ado. Et la dernière était petite fille. Donc en plus, j'avais trois générations, trois âges avec des problématiques très différentes. Et ça n'a pas été un plus, hein, on va pas dire ça comme ça. Pour moi, c'était plutôt une
mauvaise
problématique,
pioche,
j'allais pas dire un problème parce que c'est pas,
oui,
tu vois, c'est
mais
pas
ça qui m'a attiré, quoi.
Mais c'est pas ça qui m'a attiré. Ouais. Et pour moi, ça, c'était plutôt un.
Dans la colonne des contres,
oui, c'est
pas
ça.
J'essaye
de trouver une expression
qui soit pas trop négative,
mais enfin, c'était certainement pas un bonus. Non,
ça n'empêche pas de les aimer ou de les respecter.
Et puis, en plus, j'avais pas à ma disposition, j'avais aucune représentation qui donne un peu envie d'être belle-mère. Enfin,
oui.
C'est-à-dire que j'ai grandi comme vous avec des Disney où la seule représentation de la belle maternité c'était la marâtre de Cendrillon et de
très très
de
bon modèle
Blanche-Neige, etc. Donc c'était soit
que des vieilles peaux aigries et méchantes.
Exactement, et méchantes. Et puis, donc la belle-mère, c'est ça, ou alors des salopes qui couchent avec leur beau-fils dans les pornos mainstream, ouais. tu vois. Donc c'est un peu la représentation qu'on en a, quoi. C'est-à-dire soit odieux, soit salope. Enfin, donc c'est un...
Et alors toi, tu es laquelle?
Moi, je suis
un mix des deux.
Non, mais c'est un peu compliqué de se projeter dans ce rôle parce que d'abord, c'est rarement un choix. Ça peut être évidemment un... Ça peut être une incidence heureuse, bien sûr, mais c'est rarement un choix. Donc c'est difficile de se projeter, et c'est d'autant plus difficile de se projeter que on manque de représentation. Enfin, le premier film qui a parlé de manière réaliste et positive aussi de la belle maternité, c'était l'année dernière, et c'était le film de Rebecca Zlotowski.
Les enfants des autres.
Exactement.
Magnifique.
Exactement, mais c'était... En fait... On va en parler comme d'un cas d'école parce que c'est un cas d'école, parce qu'il y en a pas, il y a pas d'autres films qui évoquent la belle parentalité, alors que c'est quand même un sujet qui concerne de plus en plus de monde.
Bah, tu m'étonnes.
Et c'est un sujet qui reste un angle mort non seulement des sujets sur la parentalité, mais aussi des sujets féministes, ce qui est très étonnant, parce que c'est d'autant plus étonnant que en fait la belle-mère, non seulement c'est un stéréotype sexiste sur jambes fuselées. Ou pas, d'ailleurs, c'est pas un problème de ne pas avoir de jambes fuselées. Mais en plus, elle subit une charge mentale identique à celle de la mère, mais sans avoir la reconnaissance sociale ni familiale, souvent. Donc c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Et puis non seulement ça concerne de plus en plus de monde, puisque vu la durée de vie des couples hétéros qui diminue beaucoup, on a de plus en plus de chances ou de risques, selon qui on tombe, de tomber amoureuse de quelqu'un qui a déjà des enfants. Et par ailleurs, quand on a été en couple stable, on a toutes et tous eu une belle-mère sur laquelle on a déjà projeté des stéréotypes, souvent,
et
des
préjugés.
Pareil,
hein, c'est... Ah oui, parce qu'on parle des belles-mères, oui.
Bah oui, mais
c'est ces belles-mères-là,
c'est
toujours
même...
chiant.
C'est
toujours chiant.
C'est les mêmes. C'est les...
Bah,
voilà.
Oui. Enfin, surtout enfin, pour les garçons. Les... Hein. Sinon, on va voir ta mère. Oh là là. Oh là, là je vais... enfin,
c'est
même les deux côtés, c'est vrai.
Non,
même
c'est les deux côtés.
Ouais, ouais. Même les... Oui, oui.
En fait, c'est
mais ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sexisme.
Dans les films, dans les séries, c'est très...
Mais
on va dîner chez ta mère.
Mais c'est exactement ça. Et c'est toujours représenté de manière négative pour faire rire. Et en fait, on fait rire... ça, c'est un truc qui m'avait frappé quand j'ai écrit ce livre, c'est que souvent, on fait rire avec avec de la violence, de représentation violente des relations avec la belle-mère. C'est-à-dire tuer sa belle-mère, etc.
C'est vrai. On n'a jamais entendu dans un film, une série ou quoi.
On va dîner chez ton beau-père.
Alors que dans mes proches auxquels je pense, en général, la belle-mère, c'est-à-dire, ou la grand-mère, enfin, le rôle de la grand-mère est plutôt quelqu'un qui va prendre soin, pareil, faire et le beau-père, il va rien foutre, parce qu'en plus, c'est l'ancienne génération. Oui. Donc, on parle de beau-père qui sont
sous la table.
Des pantouflards de 70 berges, qui branlent rien, qui s'occupent pas trop de leurs petits-enfants. Enfin, je généralise évidemment un petit peu, mais c'est parce que, vrai, dans la vérité, j'ai beaucoup plus de gens qui ont des problèmes, ou en tout cas, qui n'ont pas trop d'amour ou de respect ou d'affinité particulière avec leur beau-père. Pourtant, dans la pop culture ou quoi, les beaux-pères.
C'est pas un sujet parce qu'il y a pas d'attentes qui sont projetées sur eux, tu vois, c'est exactement ça. On n'attend pas grand chose des pères ni des beaux-pères,
des hommes.
Donc on leur fout la paix en fait. À partir du moment où t'as pas d'attente, pas de...
Et du coup, tu disais que tu es avec un mec de 15 ans de plus que toi, et je crois que tu as fait un post super stylé sur la différence d'âge entre les hommes et les femmes dans les couples. Tu serais donc un paradoxe qui dénonce le... Non mais je dis ça évidemment en toute bienveillance, puisqu'on vient juste de faire une vidéo sur tous les paradoxes qui nous animent en tant que féministes. Et du coup, on se prend d'ailleurs très souvent, quand on parle de la différence d'âge entre les hommes et les femmes dans les films, on se prend très souvent des commentaires de « mais l'amour n'a pas d'âge !» Et à chaque fois, on dit « oui, non mais c'est vrai, on peut sortir !» Mais du coup, c'est pas exactement ce qu'on dénonce. C'est pas genre « on peut pas sortir avec quelqu'un de 10 ans de plus que soi ». C'est le systématique. Enfin bref, tu en as donc parlé dans ton poste.
J'en ai parlé dans mon poste. Et puis, un truc dont je parle dans mon nouveau livre, c'est aussi le fait que mon mec n'a jamais eu à subir de réflexion du fait de notre différence d'âge. En revanche, moi, j'ai souffert d'une forme d'agisme qui... et de préjugés, parce qu'on a évidemment des préjugés vis-à-vis de la fille qui a un sugar daddy. Mais c'est pas le sugar daddy, tu vois, qui a des problèmes.
C'est celle qui le fréquente.
Évidemment.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, c'est quand même marrant le double standard entre effectivement...
Bien sûr.
De tous les côtés, quoi. Comme un mec qui sort avec une nana plus âgée, c'est stylé parce qu'il a pécho une milf ou je sais pas quoi, comme on dit, une cougar.
Ouais.
Mais elle, il n'y a pas de mots.
Tu
sors avec un homme plus vieux, c'est juste normal.
Et elle, par contre, elle sort avec un minot. Elle a besoin de se sentir plus jeune.
Mais de toute façon, on est bien au courant qu'il y a un double standard.
Donc, c'est cool d'être un sugar daddy. Mais c'est pas cool, en revanche, d'être avec un sugar daddy.
Ouais, bien sûr. Non, mais c'est toujours... globalement, c'est très souvent les femmes qui sont dans la mauvaise posture.
Oui,
et c'est du coup, justement, ce qu'on dénonce quand on pointe du doigt la différence d'âge, notamment dans les films. C'est au-delà du sexisme et du problème de ne jamais montrer des femmes qui ont un vrai âge. C'est-à-dire qu'au final, même quand on met un couple... Parce que le problème dans les films, quand les gens ont une différence d'âge, c'est pas qu'ils aient une différence d'âge, c'est que ça ne soit pas mentionné. Alors qu'ils ont 15 ans d'écart et qu'ils vivent comme un couple qui dit « tu te rappelles qu'on était au lycée ensemble ?» Non, c'est pas possible, vous n'étiez pas au lycée ensemble, vous avez 15 ans d'écart. C'est ça le problème. Et le deuxième problème, c'est de ne jamais questionner pourquoi les hommes vont beaucoup chercher des femmes plus jeunes. Et même pourquoi nous, les femmes, on est attirées par des hommes plus vieux. Enfin, voilà, c'est aussi tout ça qu'on...
Et que c'est pas du tout dans les deux sens. C'est pas si on...
Non, c'est ça le problème. Ouais. C'est que c'est toujours cette différence d'âge-là dans ce sens.
Moi, je me vois pas du tout sortir avec un mec qui a 15 ans de moins que moi, quoi. Ça me paraît absurde. Ouais. Alors que j'ai 33, donc il aurait 18 ans.
18 ans, ça craint.
Ah, 18 ans, peut-être, c'est pas...
Et tu vois, on dit que ça craint.
Non, alors que les mecs, ils diraient même 23, même 25. Mais jamais.
Mais même 30, en vrai.
30, déjà, je suis là. Oh, c'est un jeune. 28, en dessous de 30, je me dis,
mais c'est vraiment appétit.
Mais voilà, parce que c'est pathologisé, alors que l'inverse est valorisé.
Ah bah, c'est elle a passé 18 ans, c'est bon.
Non, mais elle est majeure. En fait, là, parce que la phrase importante pour les hommes, et d'ailleurs, même à chaque fois qu'il y a des histoires, quand on pointe du doigt le couple Vincent Cassel et Tina Kunaki, c'est mais elle est majeure. Bah déjà, quand tu révèles l'histoire qu'elle a 18 ans, bah c'est qu'ils étaient peut-être ensemble quand elle était mineure, premièrement. Et deuxièmement, comment ça suffit de dire elle est majeure, mais il a 50 ans. Ils ont 33 ans d'écart, ils ont moins d'écart. Et on dit juste, mais ça va, elle est majeure. Mais c'est ça suffit, c'est le seul argument dont on a besoin.
Exactement, comme si c'était le seul.
D'accord, bon. Donc surtout ne remettons rien en question. Quoi. Mais en vrai, est-ce que toi, ça t'a questionné, du coup, vu que t'es féministe engagée, etc., ou est-ce que t'es tombée amoureuse, ou est-ce que tu t'es demandé quand même, tiens, socialement, est-ce que j'ai reproduit un schéma ? Enfin, vraiment, je le dis sans jugement, parce que vous vous aimez depuis longtemps.
Ça, c'est un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'on suppose aussi que la femme qui est amoureuse d'un homme a forcément des daddy issues.
Ah, on projette ça aussi ?
Bien sûr. Ah bah oui.
Mais, oui, l'envie de sortir avec ton père, quoi.
Enfin, exactement. Oui, enfin, mais donc, c'est encore un truc qui est pathologisé et psychologisé, alors que bizarrement, on n'a certainement pas interrogé les désirs de Vincent Cassel.
De sortir avec sa fille, en fait, ouais.
Voilà. Ouais. Donc,
les hommes, ils ont envie de sortir avec leur fille. Pardon,
non, mais ça, c'est normal.
Pourquoi ils veulent sortir ? Pourquoi ils veulent des filles de 18 ans ?
Mais voilà, c'est encore le mythe de l'épandage des gènes, etc., jusqu'à la fin de leur vie. Mais on considère que c'est normal qu'un homme ait envie de répandre ses gènes jusqu'à la fin de ses jours, quoi, tu vois. Donc, c'est normal qu'il soit attiré par des femmes jeunes qui puissent leur donner des enfants. Enfin.
Et oui, c'est vrai que c'est beaucoup ça l'argument.
Donc, non, mais c'est vrai. C'est l'argument masculin typique, quoi.
Ils se mettent avec des femmes jeunes pour se reproduire. Mais t'as 55 ans, frère. Ouais. Peut-être, c'est bon, arrête de te reproduire, en fait.
Ouais.
C'est bon, tranquille.
Ouais. Ouais, et puis en plus tu passes plus de temps à ne pas te reproduire qu'à te reproduire par ailleurs. Hein, oui. Donc on va arrêter avec l'histoire de la nature, c'est que quand même elle a bon dos la nature.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais tu n'as pas répondu, ça ne t'a pas questionné, toi. Dans ton couple. Peut-être que non, mais c'est OK.
Ouais, voilà. Non, ça ne m'a pas questionné.
Et lui non plus.
Et en plus, lui, ça l'a questionné beaucoup. Okay. Parce que lui, il n'était pas du tout... c'est moi qui l'ai dragué en plus. Je ne me suis pas posé la question. Je me suis posé la question récemment, et notamment dans mon livre. Mais parce que, en plus, moi, ma radicalisation féministe, elle a été tardive. Et elle a été postérieure à notre rencontre. Donc non, au moment où je l'ai rencontré, je ne me suis pas posé la question. C'est juste quelqu'un qui me plaisait, parce que c'était lui. Maintenant, ça fait 12 ans, donc maintenant, je me suis habituée. Puis après, je me dis... Pourquoi changer maintenant ?
Après tout
beaucoup
ce travail.
De tracas. Off. Voilà.
De toute façon, ça fait très peu de temps qu'on déconstruit un petit peu ça, tout doucement et tranquillement. Parce qu'il y a 12 ans, évidemment, il n'y avait pas trop ce genre de questions. Quoi.
Non, mais de la même manière qu'on considère que c'est normal que les hommes plus âgés soient attirés par des femmes plus jeunes, l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'on considère que c'est normal que les jeunes femmes... Tout ça, ça sert quand même le modèle patriarcal. Donc... Là aussi, j'ai grandi, comme vous, devant des films où la différence d'âge est majeure et entre un homme et une femme, et on considère que c'est normal, quoi, ça pose de problème à personne.
Et que tous les hommes stars un peu célèbres sont dans l'immense majorité avec des femmes très très jeunes.
Oui,
et c'est même bizarre quand c'est pas le cas.
C'est exactement ça.
Ouais, on s'en remet jamais de Hugh Jackman qui est toujours avec sa femme, qui est un peu plus âgée que lui et qui a pris du poids.
Ou Keanu Reeves, qui est quand même l'homme idéal. Enfin,
c'est qui ?
C'est le gars de Matrix.
Oh.
Ah oui.
Bon, qui a dont la femme a les cheveux blancs en plus et qui l'a embrassé là je sais plus à quelle occasion. Enfin bon bref, et ça a déchaîné les foules.
Ils en peuvent plus. Hein. Ils s'en remettent pas. En fait, on est tellement habitués à des DiCaprio qui jettent les meufs après 25 ans que quand un homme de 50 ans célèbre est avec sa femme qui a aussi 50 ans, ils sont là. Mais comment, mais voilà.
Ou alors ils disent quel héros de
sortir avec une femme pareille.
Quel courage.
D'accord.
Et donc tu parlais du fait que ta radicalisation est arrivée un peu tard. Et c'est vrai qu'on avait déjà eu l'occasion.
Il n'est jamais trop tard. Hein, mais,
exactement. Et c'est d'ailleurs en vrai un peu de ça dont je veux parler. Enfin, l'idée c'est ça, c'est que tu as fait un espèce de grand écart. Puisque quand tu as démarré ta carrière de journaliste, tu étais dans la presse féminine.
Absolument.
Et quelques années après, tu es dans... Bon, une féministe radicale et en colère, on peut le dire.
Ah bah on peut le dire. Une casseuse d'ambiance professionnelle. Ah bah oui.
Je trouve ça intéressant parce que je pense qu'on évolue tous et toutes et qu'on est dans une période charnière et que c'est ok en fait, les grands écarts, ça arrive et c'est ok et du coup je trouve que tant mieux, c'est intéressant.
Et on peut devenir casseuse d'ambiance professionnelle
à tout âge.
À tout âge.
C'est jamais trop tard.
Ouais.
Et ça n'empêche pas. Oui, c'est pas inné, c'est pas de là où on vient toujours, on n'a pas été forcément construite avec, on prend des virages à un moment, et je trouve que t'as un parcours effectivement qui peut être intéressant, puisque t'as grandi dans un climat où pour toi, rentrer dans le monde de la presse féminine, c'était vraiment une ambition, une vraie ambition quoi, une vraie envie que t'avais.
Alors, Enfin, c'était pas exactement ça. En fait, la presse féminine m'a toujours fascinée parce que elle était interdite chez moi, parce que tout ce qui relevait de la féminité telle que on l'a définie traditionnellement, était vraiment considérée comme comme stupide et dangereuse par ma mère.
Elle a, elle a infusé dans une société où le féminin n'était pas valorisé.
C'était bête.
Et donc, exactement. Oui. Et donc, tout ce qui relevait du féminin était considéré comme futile et donc stupide. Donc voilà, elle avait juste infusé dans cette société qui n'a pas beaucoup évolué. Et donc, tout ce qui était féminin était proscrit chez moi. Enfin, donc, on avait pas de, j'avais pas de robe à volant. Moi, ça me fascinait. Ma mère ne lisait pas Elle ou Madame Figaro. Il n'y avait pas ça à la maison du tout. Et ce n'était pas du tout ce qui était valorisé. Ce qui était valorisé, c'était que je lise, mais oui, tout ce qui relevait de, des choses de l'esprit, mais un peu plus, tu vois, haut de gamme, quoi. Oui, voilà, intellectuel.
Et donc, évidemment, comme tout ce qu'on nous interdit
voilà,
en France.
Évidemment. Donc, moi, ça me, donc, évidemment, ça me fascinait. Et je lisais, j'achetais tout mon argent de poche, passé en 20 ans, bah, que vous n'avez pas connu parce que vous avez 10 ans de moins que moi, mais c'était un magazine féminin qui était un peu la bible des vingtenaires, donc, ou des gens qui avaient hâte d'avoir 20 ans comme moi à l'époque quand j'en avais 12 ou 13, parce que j'ai une ado précoce, bref. Et puis j'achetais Cosmo et je les lisais, mais je les planquais sous mon lit, comme, comme les mecs pouvaient, les mecs des années 70-80 pouvaient avoir Playboy sous leur lit, quoi.
Ouais, ou les magazines de la Redoute.
Voilà, ou les magazines de la Redoute.
Exactement. Oui, c'est dans les beaux gosses.
Oui. Mais vraiment.
C'est drôle.
Oui. Et donc, c'était pas mon ambition, mais c'est quelque chose qui me fascinait parce que j'avais l'impression que, de fait, il me manquait quelque chose dans ma féminité. C'est-à-dire que j'étais amputée de quelque chose, de cette de la bonne féminité qu'on voyait dans les magazines. C'était, pour moi, c'était la bonne féminité et ça me manquait. Oui. Et donc, sans vouloir... Non, c'est pas que j'avais envie de travailler dans la presse féminine, mais c'est quelque chose qui me fascinait. Et en fait, je voulais être critique de cinéma. J'avais un stage à faire, tout simplement, dans un magazine. Ça faisait partie du cursus de l'école. Et puis, après avoir essuyé 3 refus de la part de Télérama, je me suis dit, je vais envoyer ma candidature à Elle et à Cosmo. Et c'est Cosmo qui m'a répondu en premier. Et je suis entrée à Cosmo, comme je le voulais. Donc, j'étais un peu Carrie Bradshaw.
Et ça t'a plu ?
Et ça m'a beaucoup plu. J'ai une expérience très heureuse de la presse féminine. Enfin, vraiment, enfin, une expérience très heureuse du moment où je travaillais avec des collègues. Enfin, j'ai pas d'anecdotes horribles à raconter sur des rivalités entre filles ou tout ce qu'on se projette aussi sur les ambiances de meufs, ce qui est aussi une forme de sexisme. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte, alors tardivement, je me suis rendu compte que ce que je faisais, donc mon travail que je faisais avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'application, c'est-à-dire que je le faisais vraiment avec toute mon âme, parce que je considérais qu'il était très important d'apporter de la légèreté aux femmes et de la légèreté de manière intelligente et spirituelle, etc. Je me suis rendu compte que cette légèreté, elle me pesait beaucoup. Et elle
fausse
me pesait
légèreté.
Beaucoup parce qu'elle était un peu pesante, en fait, dans ce qu'elle racontait. Et donc, c'est à ce moment-là, vers... j'avais de la trentaine bien passée, que ça a fait brame dans ma tête.
Et ça a fait brame dans le sens où tu t'es dit, je peux plus travailler là.
Ouais.
Je peux plus travailler là, ou bah, d'abord... Ou,
je peux
au contraire,
plus faire de légèreté pour les
femmes. Mais différemment, tu vois.
En fait, non, il y a eu un moment... je suis un peu radicale. En fait, je fais des mues comme un crabe, tu vois. C'est-à-dire que je fais quelque chose et puis ensuite, je mue. Et donc, j'abandonne ma peau.
Un crabe ?
Oui, bah oui.
Ils abandonnent quoi, leur carapace ?
Mais oui, mais vous ne saviez pas.
Non.
Bah non.
Mais enfin, ça ressemble à quoi, un crabe sans carapace ?
Je me dis, comment ça se fait que comme exemple de mue, elle n'est
pas
choisie
serpent ?
Oui, ouais, parce que moi, j'ai vraiment...
Attends, mais attends, vous me mettez un doute.
Tous les crustacés changent de carapace pour grandir en taille. En fait, ils ont besoin de changer de maison puisqu'ils grandissent.
Bah oui.
Et ils la trouvent où ?
Ça, ma vieille.
Ils la recyclent d'un autre crabe.
Non, mais on va pas non plus.
Bah attends, ça y est, je veux tout savoir. Non, mais on
Écoute,
peut au
tu demanderas à Google.
Elle genre leur carapace, elle grandit pas.
Bah il va au magasin de la.
Non mais si, mais ils font une nouvelle carapace apparemment. En fait, en gros, il y a une nouvelle carapace qui se forme, qui est d'abord molle.
Bah oui, c'est de la peau en fait, la carapace.
Ça me dégoûte. Je préfère largement ton idée du magasin de carapace.
Oui, mais c'est ça.
Là, avec Monsieur Crabe, là, c'est sûr, ils vendent des carapaces.
Mais bien sûr. Oui, c'est le copain de Bob l'éponge.
Oui.
C'est là qu'il va chercher les carapaces.
Voilà, exactement, c'est ça qui se passe.
Allez, c'est ça qui se passe.
Merci beaucoup.
Et donc, tu as mué un crabe et tu as changé de maison.
Et exactement, je suis passée par le magasin de carapace. et en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que mes déclics sont assez brutaux. Ce n'est pas des trucs qui se passent de manière très, très, très lente, etc. Et oui, j'ai eu une espèce de déclic. Et je me suis dit, non, c'est plus tellement possible parce que ça heurte
Trop de choses en toi.
Trop de choses en moi, et que ça va être un peu compliqué de continuer de faire ce que je fais avec autant de... enfin, je suis quelqu'un de très entier, donc j'ai besoin de faire des choses auxquelles je crois, et j'y croyais plus en fait à ce que je faisais, donc ça devenait très compliqué.
Tu pouvais pas le faire avec exactement. Détachement, quoi.
Et je pouvais pas le faire avec détachement. Je pouvais pas simuler de continuer d'aimer ce que je faisais, et donc d'apporter une légèreté à laquelle je ne croyais plus. C'était pas possible.
Et j'imagine que dans le deal, tu pouvais pas non plus amener tout un féminisme radical dans des articles pour Cosmo.
Ah ben non,
peut-être pas faisable en vrai.
Non, puis en plus, ça faisait longtemps. Entre-temps, j'avais quitté Cosmo depuis un petit moment. Okay.
C'était à peu près au moment de MeToo ou pas du tout?
C'était un petit peu avant
MeToo. Parce que tu dis que c'était il y a 10 ans.
Non, c'était en 2015.
Ah, et bah donc oui, on commençait à secouer un peu les choses quand même.
Ouais. Okay. Non, mais il y avait des trucs, il y avait des pièces qui étaient tombées, mais je les avais pas entendues tomber dans ma tête.
Ouais. Okay.
Mais il y avait des pièces qui étaient tombées quand même. L'affaire DSK, par exemple, ça m'a, il y a un truc.
C'est
je me souviens très bien.
Tout ça dit.
Ouais, c'était en 2011. J'étais rédactrice en chef d'un magazine qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Bi. Et en fait, quand l'affaire DSK a éclaté, j'avais été sidérée que Nafissa Toudialo n'ait pas de nom. Ouais. Et qu'on parle de ça, et que non seulement on parle de la femme de chambre, mais qu'en plus on la ridiculise.
Oh là là, oui.
On la ridiculise.
De relire les articles aujourd'hui.
Et à l'époque, alors qu'on n'avait pas tout le recul sur MeToo et tout, il y avait quand même un truc qui m'avait heurté. Alors que encore une fois, j'étais féministe, mais tu vois, parce que j'étais évidemment féministe et voilà.
Mais un peu humaniste.
Mais un peu humaniste et puis mais je m'épile et j'aime bien les hommes et tailler des pipes, tu vois.
Soit dit en passant.
J'espère que mes belles filles n'écoutent pas ce podcast.
Non, il est pour les plus de 18 ans, je pense.
Enfin, elles sont vieilles maintenant.
Moi, je suis vieille.
Bah non, mais il y en a une qui était déjà adulte il y a 12 ans, ma vie.
Bah ouais, donc, elle est très adulte.
Donc, adulte plus allez, 12 ans, bah égale vieille. Allez, alors, désolé, si tu nous écoutes.
Bien sûr. Elle est même maman elle-même. Ce qui fait de moi une belle mamie. Une belle mamie, exactement.
Mais je n'arrive pas à me souvenir une seconde de ce que je pensais de l'affaire DSK au moment où c'est sorti. C'est terrible. Je pense que j'étais potentiellement dans une sacrée ambivalence, hein, je vous le dis. Je vous le confie, de moi à vous.
Ouais, je me rappelle.
Je pense que j'étais entre le gros porc en peignoir là et peut-être qu'elle a quand même menti et tout pour de l'argent.
Parce que t'avais pas le choix, il y avait rien qui t'incitait à penser autrement, et notre entourage, c'est encore la pensée de certaines personnes aujourd'hui. Mm-hmm. Là, c'est beaucoup plus problématique pour moi, c'est qu'ils pensent que DSK a été bien puni parce qu'il a perdu la présidentielle à cause de ça.
Ah, oui.
Déjà parce qu'on imaginait qu'il allait la gagner, ce qui était pas sûr, mais c'est vrai qu'il était en possibilité de.
Et le pauvre,
mais on estime que le pauvre, en fait, le pauvre, c'est que il a largement payé sa dette puisqu'il a perdu la présidentielle. On estime que c'est amplement suffisant comme punition.
Oui, et c'est exactement ce que tu dis. En plus, Justine, qu'il s'est fait avoir.
Ouais.
Comme si.
Bah, ça tournait vraiment ça.
Il s'est fait avoir, comme si comme s'il n'était pas responsable de ses propres actes.
Ouais. C'est ce qui m'a poussé. Je pense à l'époque à me dire ah, on sait pas trop. Ouais. Attendez, on sait pas trop. Tu sais, je pense que j'étais grave dans ce truc. Bah, voire même, ça se trouve, pro-desque. En fait, je me rappelle pas. Non, je crois quand même que je me disais que
c'était
un
mec de gauche, tu vois.
Oui, c'est ça.
Oui, mais parce qu'il y a quand même eu des dossiers qui sortaient. En fait, voilà, je pense qu'on se disait peut-être un peu que c'était un cochon. Oui. Pas forcément un gros violeur, un gros porno, mais au moins un cochon. Quoi. C'était connu qu'il faisait des soirées libertines. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce côté, plus ce côté cochon. Et donc, il a essayé à tous les moments où il pouvait essayer.
Mais c'était pas un agresseur, c'était pas.
On avait moins la notion de violeur.
Ouais, on le voyait pas comme un délinquant. On le voyait comme un libertin. Voilà.
Qui fait bien la vie, quoi.
Voilà.
Ouais, putain. Oui, donc cette première histoire, elle t'a marqué.
Ça c'est un truc qui, c'est-à-dire que là, la pièce est vraiment tombée, mais je l'ai pas, j'ai pas fait le rapprochement. Et puis ensuite, il y a eu toute une série de déclics qui ont fait que finalement, j'ai fait,
c'est trop,
c'est trop. Ah bon, d'accord.
Et donc tu crées ton Insta en disant, c'est bon, je vais faire les choses moi-même.
C'est exactement ça.
Et tu dis, c'est bon.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc ça a été encore une fois, je suis allée rendre ma mue au magasin de carapace
chez Monsieur Krapp.
Tu vois, chez Monsieur Krapp pour échanger en fait contre une autre mue. Du coup, puisqu'il y avait des promotions.
Ouais, sur les newsletters, notamment.
Exactement. Mmh. Donc, du coup, j'ai dit, bah voilà, on fait l'échange, monsieur Krapp.
Ouais.
Et... T'es mignon. Et en fait, oui, c'était ça. Et puis, parce que je souffrais d'un petit syndrome de l'imposteur qui ne m'a pas quittée, hein, parce que bon, parce que j'ai dit que j'étais un peu anxieuse comme personne. Mmh. Et donc,
peut-être pas encore dans le podcast, mais.
Pas,
bon. Tu as dit que tu avais inventé la notion même de peur.
Ah oui,
au début de ce podcast. Donc,
c'est vrai. Et en fait, parce que je ne me sentais pas légitime de parler des sujets qui commençaient de m'habiter, je me suis dit, bon, bah, je vais en parler sur un média qui est moins impressionnant que dans la presse pour adultes, pour grandes personnes, donc pour hommes. voilà. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de féministes qui ont commencé à s'exprimer comme ça. Parce que c'est moins impressionnant, Instagram ou le format blog le format newsletter.
Oui, parce que les gens viennent te chercher.
Oui,
et c'est pas toi qui va chez les gens.
Et puis par ailleurs, il n'y a pas d'attente particulière vis-à-vis de tes posts. C'est-à-dire que bon, c'est ton espace personnel, si tu veux. C'est pas un média.
Oui,
et puis les gens, ils payent pas pour.
Oui, et puis quand tu commences ça, tu dis vraiment, bah si ça prend, tant mieux.
Oui, voilà, c'est exactement ça.
Je fais mon petit journal intime, je le mets en public. C'est pas comme quand tu rejoins un média et que tu as envie de succès.
Bah c'est exactement ça. Et puis il y a des enjeux qui sont aussi des enjeux commerciaux, etc. Moi, j'avais pas ça du tout.
Et ça a pris, et ça a eu l'engouement que ça a eu. Et c'est après que tu as commencé à écrire des livres, du coup t'avais déjà sorti quelque chose avant.
C'est à peu près concomitant.
J'ai pas toute ta bibliographie en tête.
Mes œuvres complètes. Non, c'est à peu près concomitant.
D'accord,
j'adore ce mot, concomitant.
Hein, surtout dit comme ça.
Concomitant. Non, c'est à peu près concomitant.
Et donc, ça y est, on vient de retracer, mine de rien, en 52 minutes, ton parcours.
Ton parcours, ouais.
Ce qui va nous amener...
De belle-mère.
Sans être passé par les bols à questions. Je suis navrée de vous le dire, mesdames, mais parce qu'on n'avait pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On avait tellement de choses à se dire.
Ah merde, mais je n'ai pas de bols à questions.
T'es dégoûtée?
Je suis dégoûtée. Allez, vas-y, faites-moi une question.
Allez, vas-y. Mais après, c'est... Vas-y, une question.
Donc, c'est vraiment, il faut que ce soit la bonne.
Ça, c'est deep et ça, c'est chill.
Bon, chill. Le livre-film que tu dois lire, voir, mais tu ne le fais pas. Le deuxième sexe. C'est malin. Le deuxième sexe.
Tu l'as pas lu?
Je l'ai jamais lu.
Ah, de Simone de Beauvoir?
Ouais, c'est malin.
Moi, c'est mon entrée dans dans le gros militantisme. Bon, peut-être je vais dire un truc qui se fait pas.
Que ce soit une rêve.
Non, je suis pas sûre que t'en aies besoin aujourd'hui. Je sais pas comment dire. Enfin, c'est-à-dire que moi, je l'ai vraiment lu. Je crois que c'est peut-être le premier essai que j'ai lu et ça date du premier confinement, donc c'est vraiment pas très vieux. Mmh. Avant, j'étais déjà un peu féministe. Enfin, j'étais féministe, on était déjà engagés avec Justine et tout. Mais c'est vraiment le début de mon gros militantisme avec vraiment l'envie. Mmh. Et derrière, je n'ai lu quasiment que des essais. Enfin, j'en ai lu énormément alors qu'avant, j'en avais pas lu. Mais je trouve que depuis. C'est pas que tout le monde s'est inspiré d'elle, mais depuis on a créé plein d'autres choses, donc je sais pas si aujourd'hui il y a un vrai intérêt à le relire. Moi j'ai aimé parce que c'était mon premier. Mais...
Je trouve que c'est intéressant de savoir d'où on vient aussi, tu vois. Vrai. C'est intéressant quand même. Parce que c'est intéressant de lire Virginia Woolf, par exemple.
C'est vrai.
Une chambre à soi, c'est quand même.
Mais comme...
Moi ça a quand même été. Ça fait Braum dans ma tête.
Ouais, j'avoue.
Mais comment on s'en est beaucoup inspiré depuis ça me. Puis en plus c'est un peu gros et tout.
Ouais, mais
c'est vraiment la connasse. Mais non, mais c'est ça. Je me dis,
qu'il dis-tu.
En plus, je connais la fin, tu vois.
Moi-même, trois pages, j'ai pas envie de les lire.
À la fin, on a perdu.
Ouais, c'est ça. Non, et puis en plus, je me dis, je regarde.
Il y en a deux,
je regarderai sur. Ah ouais.
Et j'avoue que le
je regarderai la série Netflix. Que je me dis.
Il est très très intéressant, mais je trouve, pour avoir lu beaucoup de choses depuis, que comme tout le monde s'en est beaucoup inspiré, ça a créé pas mal de théories, bah, que du coup, elles sont quand même parvenues jusqu'à nous. C'est ça que je veux dire. C'est que mine de rien, tu t'en as quand même reçu pas mal, parce que ça a déclenché tout ce que ça a déclenché derrière. Et toi, il y a un truc dans ta collection, Justine, que tu te dis, ça, faut que je le lise, faut que je le vois, faut que je...
Bah, alors beaucoup de choses qu'il faut que je lise puisque comme je disais je lis pas, donc il y a vraiment, j'ai l'impression de passer à côté d'énormément de classiques, j'ai vraiment pas beaucoup de classiques dans ma bibliographie personnelle. En termes de séries, je suis passée à côté de beaucoup de choses absolument indispensables telles que Game of Thrones.
Oui, mais est-ce que tu dis il faut que je le vois?
Ça dépend des jours.
Ouais, moi je suis d'accord.
Oh bah quand mais... même.
Ouais, il faut voir, tu dis. Je croyais qu'elle était plus de mon côté, genre on s'en fout.
Mais en plus, comme je suis fan du Seigneur des Anneaux.
Vous avez vu ou pas le mème qui tourne en ce moment sur la seule scène entre deux femmes du Seigneur des Anneaux?
On l'a revu ensemble, Justine. Mais
ah voilà,
comme
bah, alors, tu as vu ou...
Ça, par exemple, je suis complètement passée à côté du Seigneur des Anneaux et j'ai très honte. Et il faudrait que je.
Bah écoute, tu vas entendre cette petite info et ça va quand même te faire avoir un peu.
Donc là, j'ai été un peu spoilée.
Non, mais là, info.
En gros, il y a un réel qui est sorti en ce moment là sur Instagram, TikTok, tout ça, là, qui montre la seule scène sur 3 fois 3 heures du Seigneur des Anneaux où deux femmes se parlent entre elles.
Il y a une seule scène.
Une seconde. Il y a une réplique entre une mère et sa fille. C'est tout. C'est sorti. Ouais. Et bon. Alors, c'est drôle parce que moi, je me suis dit, ben non, je ne peux pas y croire. Mm-hmm. Et pourtant, je n'arrive pas à me rappeler d'autres scènes. Et on allait voir un peu les commentaires, il y a plein de gens qui disent... Mais si, attendez, il y a ce moment-là, non ? Et puis les gens répondent en commentaire. Non, non, c'est un mec.
Il y a vraiment,
une scène d'une seconde, quoi.
C'est donc c'est tu vois, incroyable. Donc oui, les films combien sont quand même géniaux, mais il y a 3 fois 3 heures. Il y a 9 heures de films, voire 10 heures avec les scènes coupées.
C'est pas beaucoup. Voir les versions longues, elles font 3h30.
Mais j'étais fan. Enfin, je suis toujours d'une certaine manière un peu fan, mais effectivement, tu vois, c'est en ça où tu te dis, bah ouais, le monde a quand même un peu bougé.
Ouais.
Parce qu'on a quand même accepté 10 heures de film où il n'y a pas deux femmes qui se parlent. Et puis évidemment, zéro
et on se projetait.
Personne issue de minorité.
De la diversité.
De la diversité, zéro.
Non, et on se projetait de ouf.
Alors que les mecs, ils se projettent pas.
Alors, parce que les films de mecs, ça n'existe pas, par exemple.
Alors que les films de filles, ça existe.
Ouais.
Films.
Ouais.
Bien sûr.
Oui. Mais comme tout, y a le foot d'hommes, ça n'existe pas. C'est
non.
Le foot.
Oui. Eh oui.
Le tennis, le foot c'est féminin. Le tennis d'hommes.
L'humour, c'est l'humour.
C'est l'humour des hommes.
Il y a l'humour, voilà. C'est ça aussi.
La cuisine.
Ah, la cuisine. Ah, Top Chef. La cuisine. Ah là là.
La grande cuisine. C'est ouais. Après, sinon, c'est de la cuisine de bonne femme ou de grand-mère.
Oui, c'est celle où il y a des fleurs dessus.
Ouais. Qui est pourtant très bonne, mais à la maison.
Et ben moi, parce que pardon, mais je ramène tout à moi.
Ah oui, c'est vrai.
Non, moi, j'avais
là.
Moi, ce que j'ai oublié. Là où j'ai un gros manque, c'est que moi, je vais beaucoup au cinéma depuis que j'habite notamment à Paris, donc depuis une dizaine d'années.
Et que t'as la carte UGC.
Et j'ai la carte évidemment illimitée. C'était la première chose que je me suis payée quand je suis arrivée à Paris avec zéro argent en poche. Mais tant pis, 20 balles par mois, pourquoi s'en passer ? Et donc j'ai beaucoup vu de films depuis ces années-là. Par contre, j'ai une culture cinématographique à l'ancienne.
Ah oui.
Éclatée au sol. Je n'ai rien vu.
Je regarde pas de films chez toi.
Non,
de
déjà, j'arrive pas à regarder des vieux films. Vraiment, je pense que je n'ai vu que les 400 coups, par exemple, quand je vraiment de
ah mais c'était quand la vie.
Ah oui, je pense que j'en ai
quand la vie était en noir et blanc, c'était trop bizarre.
Non, mais pas vu. Je n'ai vu aucun classique quasiment. J'ai même pas vu les Retours vers le futur et trucs comme ça. Enfin, donc les vraiment les trucs de jeunes, les Goonies, tous ces films.
Classic Woman, tu l'as vu quand même.
Oui. Par contre, les comédies romantiques, j'avoue,
tu l'as vu quand même.
Ouais, mais je l'ai vu après, hein, Dirty Dancing. Je l'ai vu trop tard parce que j'ai trouvé nul à chier. Ça, le problème, c'est qu'en redécouvrant, j'ai redécouvert Grease aussi. J'avais jamais vu Grease.
C'est nul.
Oh mon Dieu, c'est
si bien, mais nul.
Mais ouais.
Ah non, mais Grease, le découvrir avec des yeux d'adulte. Et Goonies aussi, les Goonies, j'ai découvert avec mes yeux d'adulte. Mais c'est un enfer.
Découvrir Grease avec les yeux d'adulte, c'est
pas possible.
Non, mais autant.
Heureusement qu'on a les musiques dans la tête et qu'elles font partie et que pour le coup, les musiques sont vraiment stylé.
Mais... Je l'ai également revu il n'y a pas si longtemps et ça m'a évidemment fait une Madeleine de Proust parce que j'adorais ce film. Enfin, je l'adore quand même, mais vraiment, je
c'est pas bien.
C'est exagéré. Ils ont 40 ans.
Ils ont vraiment 40 berges et c'est tout à fait problématique.
Il n'y a rien qui marche pas. Ça marche pas.
C'est une fille, qui doit changer de personnalité pour être,
pour être acceptée par son gars.
Bah, dans Euphoria, c'est la même chose, hein, les gars.
Et franchement, de toute façon, Euphoria, j'ai adoré. Puis quelques mois après, je me suis dit,
on n'est pas sur un énorme male gaze là.
Il y a quand même pas 3 des personnages principaux féminins qui sont
ultra sexualisés.
Archi sexualisés.
Si,
il me semble. Ah, ça a été réalisé par un mec. Ah bah voilà.
Et bah vous savez quoi, on va enchaîner très immédiatement, rapidement
avec la reco déco.
Exactement, le top flop culture de la fin de l'épisode, même si là on a déjà fait des petites allusions. Si tu as une œuvre, quelle qu'elle soit, à nous recommander ou quelque chose que tu n'as particulièrement pas aimé ces derniers temps.
Alors je suis allée voir Mon Crime à propos de cinéma et j'ai adoré.
Ah,
avec Isabelle
c'était
Huppert.
C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Ouais, Isabelle Huppert qui fait son Isabelle Huppert, comme dans tous les films.
Et on adore.
Et c'était très agréable à regarder. Et c'était vraiment un très bon moment de cinéma, un très bon divertissement.
François Ozon.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est un excellent divertissement. Et je trouve que c'est assez rare de faire un très bon divertissement intelligent et féministe.
Oui.
Et donc, c'est à saluer. Et pas raciste.
Parce que ça parle de quoi, si tu peux, juste rapidement pour donner l'eau à la bouche aux gens.
En fait, c'est une jeune actrice ratée. Qui ne parvient pas à percer, qui est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis et dont elle va s'accuser pour faire se décoller sa carrière. Elle est défendue par sa copine qui est avocate et qui ne parvient pas à percer non plus. Et ça se passe dans les années 30.
Ok,
donc
marrant.
Voilà. Donc, et en plus, y a les costumes, etc.
Ouais,
moi,
ouais.
Je suis très fan
de ça, les coiffures, les trucs. C'est très cool, ça me donne très envie.
Toi, ça te va plaire, le François Ozon.
Ah oui,
moi, j'adore François Ozon en général. Et c'est top.
Moi, je fais une reco ciné aussi, et on en a parlé dans le podcast, comme ça on développe un tout petit peu le film qui est déjà sorti il y a plusieurs mois, de Rebecca
Zlotowski.
Zlotowski, Les Enfants des Autres avec Virginie Efira.
Je l'avais déjà recommandé.
Et Roche disait, c'est vrai ?
Oui.
Ah.
Et bah je le recommande. J'avais dit, je me souviens, parce que du coup tu vas pouvoir rebondir. J'avais, bah, ouais. On va recontextualiser.
Tu m'avais dit qu'il me plairait trop. Et bah, je l'ai vu depuis.
Oui, mais c'est surtout que j'avais dit que moi je l'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé, mais j'avais été un peu gênée par l'intimité de certaines scènes. J'avais trouvé ça un peu trop à mon goût, la nudité, les câlins, les chuis en toi. C'était, j'ai trouvé ça trop intime pour moi. C'était vraiment mon seul petit bémol.
Mais vas-y, pardon, non, recontextualise. Je comprends, si tu veux, je pense que c'est tout à fait propre à chacun. Moi, je trouve pas ça dérangeant dans la globalité, parce qu'elle raconte vraiment une histoire d'amour. En plus, c'est une meuf qui filme et je trouve que c'est ok. Oui, oui. Ils sont logés à la même enseigne. On voit pas beaucoup plus.
Virginie Efira a quand même un vrai nu frontal. Lui, je suis pas sûre qu'il en ait.
Il est nu profil derrière la baignoire. Oui. Mais bon, ouais, oui. Oui,
bon, parce après, je suis d'accord que ça reste du female gaze.
Mais je trouve quand même ça mieux. Plutôt bien fait. Mais bon, voilà. De toute façon, si tu l'avais déjà reco.
Non, mais, oui, mais là, à l'époque, il était au cinéma. Là, il va être sorti sur les plateformes.
Je l'ai trouvé très bien écrit et très juste.
Qui parle de quoi ? Parce que finalement, tout à l'heure, on.
Qui parle de Virginie Efira, d'une nana qui tombe amoureuse d'un mec qui a une petite fille. Et du coup, elle se prend d'amitié pour cette petite fille, d'affection, ouais.
Et elle devient belle-mère.
Et elle devient belle-mère.
Avec tout ce que ça comporte.
Et elle, pour le coup, elle souhaite avoir des enfants et ça devient complicado pour elle. Elle a des petits soucis qui lui permettent de pas forcément... Bah, je spoil complètement là, en fait, quand je dis ça, non ?
Non, les spoils, c'est pas un film à twist non plus, tu vois.
Non, c'est pas James Bond. Voilà. On n'est pas sur un... Non.
C'est pas, tu vois.
Voilà. Et la fin est hardcore, voilà, je vous le dis. Ça m'a ruiné.
Ça fait pleurer.
J'étais dégoûtée. Ouais, ça fait pleurer.
Ça peut faire pleurer.
Et comme je trouve ça très très juste, ça fait pleurer dans le bon sens, entre guillemets. Mm. Ça fait un peu... ça fait cogiter, ça prend bien, quoi. Je l'ai trouvé très très beau, ce film, vraiment.
Et toi, Camille ?
Et moi, alors j'ai un petit flop, mais c'est pas un très gros flop, mais parce que je suis un peu agacée. Je suis allée voir le film parce que beaucoup de gens m'en avaient parlé. Enfin, comme je parle un peu de cinéma sur mon compte Instagram et sur YouTube, j'ai parfois des gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien que tu parles de celui-là ». Bon, très bien, j'adore parler de films et de séries, donc c'est cool. Mais là, on m'a dit « Va voir Women Talking », qui est donc un film sur une communauté. Quand le film démarre, tu penses que c'est une communauté à peu près au Moyen-Âge. En fait, non, ça se passe en 2010. Donc, c'est une communauté aux États-Unis mormone. Enfin, j'ai pas le mot exact, mais parce que ça se trouve, c'est pas une vraie communauté non plus. Mm. Mais une communauté à l'ancienne où ils ont vraiment aucune technologie, où ils sont en calèche, littéralement, hein, et cultivent leur champ. Et en fait, le tout début du film, c'est qu'on apprend que les femmes étaient agressées pendant la nuit et qu'on leur faisait croire que c'était le diable, que c'était un truc magique, mystique. Et un jour... Eh ben, en fait, on prend sur le fait les hommes qui sont en train en fait, de les violer, hein, tout simplement. Et donc, ces hommes-là sont rejetés à la ville pour avoir une espèce de procès, mais je ne sais plus pourquoi, parce que ça se passe très très vite. En fait, ils vont revenir dans 2 jours. Ils vont tous revenir dans 2 jours, et donc les femmes se réunissent parce qu'il faut qu'elles décident, vu que les hommes reviennent, parce que c'est beaucoup d'hommes qui les agressaient, vu que les hommes reviennent, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se bat ? Est-ce qu'on se barre ? Ou est-ce qu'on leur pardonne ? Et donc elles font comme ça un espèce de conseil où elles vont devoir prendre cette décision. Vous ne trouvez pas que sur le papier, ça a l'air très très stylé ?
Si, ça a l'air pas mal.
En fait, tout ça, c'est les 2 premières minutes du film.
Ah, tout ça, c'est les deux premières. Ah ouais.
Donc, ensuite, on a le conseil, elle vote. Et comme ils n'arrivent pas à prendre une décision, il n'y a plus que, parce que tu ne pouvais pas faire jouer 50 femmes dans un film, c'était trop compliqué, tu n'as plus que finalement 8 femmes qui sont choisies, 8-10 femmes qui sont choisies pour prendre la décision. Et à partir de là, tu es dans une grange où il fait toujours sombre, pour ne pas dire noir, des dialogues. Parfois intéressant, mais tu as vraiment 1h30 de film de femmes qui parlent dans une sombre grange de ces préoccupations-là. Et c'est d'une austérité diable. Je comprends pas pourquoi on n'a pas vu cette histoire-là que je vous ai racontée et pourquoi ça a fait que 2 minutes. En fait, ce qui m'embête, c'est que, évidemment, que leur dialogue...
Parce que c'est un film, en fait.
Bah voilà. Mais oui. Et du coup, ce qui m'embête, c'est que leurs dialogues sont évidemment hyper intéressants. Parce que vous pensez bien que c'est des questionnements...
autour de la prise de décision.
Oui, bien sûr. Oui, voilà. C'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'elles n'ont pas réussi à... Quand toutes les femmes de la communauté ont voté, elles ne se sont pas mises d'accord. Mmh. Donc à la place, on a dit, on fait une petite délégation qui va prendre la décision. Pourquoi ? Parce que pour filmer, c'était plus pratique. Elle n'allait pas faire un film avec 50 personnages principaux. Ça ne marchait pas. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, moi, ce qui me dérange, c'est que...
C'est même pas justifié en fait cette décision.
Bah non. Enfin, pour moi, c'est vraiment juste la praticité cinématographique. Je n'y vois rien d'autre. Ce qui me dérange, c'est que je trouve que la thématique est super stylée et que dans les dialogues, il y a des bouts de dialogue extrêmement intéressants. Et vous pensez bien, hyper contemporaine comme questionnement, qu'est-ce qu'on fait de nos violeurs en vrai ? C'est quand même très très intéressant. sauf que bah, c'est dans un film austère où il fait toujours sombre et où on a juste mis des femmes autour d'une table en train de parler. Donc évidemment que personne ne veut aller
dans
voir
une
ça.
Grange sombre.
Dans une grange et où tu.
Non mais enfin, tu vois, parce qu'à la limite, ce serait dans un appartement.
Oui, puis
design,
des femmes, puis n'oublions pas des femmes habillées comme des mormones avec des cagoules et des grandes, tu vois, des tenues.
Oui, ah oui, en plus.
Il y a aucune couleur, il y a aucune. Et du coup, j'étais là genre, mais évidemment que le film va pas marcher. Oui. À la fin, elles décident, est-ce qu'elles s'en vont, est-ce qu'elles restent, est-ce qu'elles pardonnent ou pas. Oui, la décision va être prise et on ne voit jamais les hommes revenir parce qu'évidemment, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est quand ils reviennent, les hommes, qu'est-ce qui se passe après cette décision.
Et même
pas. Ah non, on ne le voit pas. On ne voit que la prise de décision, fin du film.
Ah ouais. Dans la grange.
Donc vraiment, je me suis dit, mais j'étais trop dégoûtée parce qu'il faut qu'on fasse ce genre de film aujourd'hui. Mais c'est extrêmement important de traiter ce genre de thématique. Moi, j'adore. Je suis la première à vouloir absolument y aller. Mais en fait, c'est d'un austère, d'un sombre, d'un triste.
Bah, c'est très dissuasif, en fait.
Mais complètement. Ouais, complètement. Mais quel mec peut supporter d'aller voir ce film? Déjà, en tant que femme, c'est un peu chiant. Donc voilà, je suis déçue. Ouais. C'est ma déception du moment. Voilà.
Et bah, très bien.
Voilà.
Très bien.
Très bien. d'être déçue. Bon, en tout cas, Fiona, merci d'être venue.
Oui. Merci à vous de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir, c'était trop bien.
Vous pouvez retrouver Fiona Schmidt sur les réseaux sociaux. Fiona N. Schmidt même, c'est ça?
Bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui s'appellent Fiona Schmidt, ce qui est insupportable. Je ne comprends pas que ces gens aient le même nom que moi. Donc, j'ai mis l'initiale de mon second prénom.
Okay. Et vous irez vous ruer en masse dans les petites librairies acheter.
Vieille peau.
Donnez l'argent aux femmes maintenant, ça suffit. Aux librairies et aux femmes. Allez, on vous embrasse. À bientôt.
Merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci. Bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.